Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard. Thème, le sermon sur la montagne. Huitième partie, la colère.
On va continuer notre étude sur le sermon sur la montagne. On va prendre un sujet qui, je crois qu'il concerne tout le monde. Et je vous propose que nous lisions dans Matthieu, chapitre 5, au verset 22, simplement le verset 22. Voilà, une simple phrase. Alors, Matthieu, chapitre 5, verset 22, et c'est Jésus qui le dit. Nous avions déjà vu auparavant le contexte de ces enseignements, mais là, j'aimerais m'arrêter sur un trait de caractère. Alors voilà ce que je lis au verset 22, « Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre... » Quiconque se met en colère contre. J'aimerais apporter tout d'abord un rappel de définition de ce qu'est la colère. Alors peut-être on pourrait le résumer et le décliner sous différentes façons, mais je vous livre tout simplement quelques pensées. Tout d'abord, la colère est un puissant sentiment de mécontentement qui forcément libère des énergies, des émotions, qu'elles soient verbales, qu'elles soient physiques, qu'elles soient morales, et lesquelles nous poussent très souvent à blesser, voire même à détruire le sujet ou l'objet de notre irritation. Il y a une grande différence entre la colère et l'amour. Peut-être on peut dire les choses comme ça. Sur le plan de notre humanité, j'ajouterai que la colère est le fruit instinctif, naturel de nos frustrations, de nos contrariétés, de nos indignations. Maintenant, reste à déterminer si nos colères sont justes ou injustes. Très souvent, quand c'est nous qui nous mettons en colère, on pense que c'est juste. Maintenant, celui qui en est l'objet aura probablement une pensée qui sera différente, voire même contraire, opposée. On sait très bien, par l'effet produit, que la colère est malheureusement communicative et à terme, elle rompt la communication. À partir du moment où elle est passagère, bon, les choses s'arrangent. Mais quand il y a un état colérique, quand vous avez affaire à quelqu'un qui ne peut pas réagir, ne peut pas vivre, ne peut pas communiquer sans colère. Alors à ce moment-là, c'est véritablement une grande difficulté. Et s'il n'y a plus de communication, ça provoque la rupture. Ça se comprend. La colère est par trop souvent négative, mais parfois elle est salutaire. Alors il faut voir les deux aspects des choses, parce que Jésus nous l'enseigne, et il nous en parle, il nous dit les conséquences. Lorsque nous avons lu, si quelqu'un se met en colère contre son frère, il est passible du jugement. Que celui qui dira à son frère « Raca » mérite d'être puni par le Sanhédrin, et que celui qui lui dira « Insensé » mérite d'être puni par le feu de la Géhenne. Alors vous avez vu le crescendo. Et Jésus enseigne qu'il y a cette colère qui est très humaine, mais qui peut aller jusqu'au meurtre. Si quelquefois ça ne va pas jusque-là, c'est parce qu'il y a toutes sortes de barrières, toutes sortes de sécurités qui sont posées. Mais elle est naturellement capable d'aller très loin, d'aller jusqu'à son terme. La première histoire de colère, qui est liée à la jalousie, qui est liée à la frustration, c'est bien l'histoire de Caïn et d'Abel. Vous avez vu comment ça s'est terminé ? Premier meurtre de l'humanité. Premier meurtre de l'humanité qui a donné des millions et des millions de crimes dans l'histoire, qui a donné ces choses épouvantables et monstrueuses que l'on appelle la guerre. Alors, ce n'est pas un individu contre un individu, mais ce sont des nations, des peuples contre d'autres peuples et nations, pour les détruire. Alors, je disais que elle est quelquefois salutaire quand elle vise, et il est à le dire, il faut le dire, à défendre un droit légitime, à écarter une menace, un péril à dénoncer l'injustice. Quand il y a parfois un réflexe de survie, où l'on s'insurge contre le laxisme, où on s'insurge contre la souffrance d'autrui, où l'on s'insurge contre la tyrannie. C'est tout cela. On pourrait peut-être dire que la bonne colère s'oppose au mal. On a un cas très marqué, c'est la colère de Jésus au temple de Jérusalem. Alors, ne confondons pas, n'allons pas penser que nos colères ressemblent à celles de Jésus. Vous savez ce qu'il a fait ? Il a envoyé promener en l'air les trafiquants, les voleurs, enfin, tout ça dans un contexte religieux, le mercantilisme du temple, avec toute cette, ce scandale qui s'étalait, parce que finalement le temple de Jérusalem était appelé et devait rester une maison de prière, et non pas une caverne de voleurs. Alors là, nous pouvons dire que la colère de Jésus était juste, elle était sainte, mais n'allons pas nous imaginer que nos colères, même si parfois, entre guillemets, nous paraissent justes et bonnes, on reste que des hommes, et on reste encore tout empreint de cette humanité, où quelquefois, ça peut dépasser les limites. Et on va en parler d'ici quelques instants. La bonne colère, je le rappelle, s'oppose au mal. Voici son aspect positif. Hélas, et trop souvent, et si vous lisez les histoires dans la Bible, vous verrez qu'il y a beaucoup d'histoires de colère, d'hommes en colère. La colère s'inspire de mobiles futiles, et j'ajouterai égoïstes. C'est peut-être un obstacle à nos idées, une opposition à ce que nous pensons et nous croyons. Quelquefois, ça donnait des guerres de religion, hein. Pas moins. Cela peut-être constitue une opposition à nos plans et à nos projets qui sont contrariés. Quelqu'un qui ne pense pas comme nous. Et on en a déjà rencontré, et on va en rencontrer toute notre vie, des gens qui ne penseront pas comme nous. Et il va falloir savoir composer aussi. Parce que si nous devons nous mettre en colère avec tout ce qui n'est pas forcément en alignement avec nos idées, on ne va pas forcément s'épanouir. Et voilà que, à ce moment-là, devant toutes ces contrariétés, toutes ces vexations, il faut véritablement qu'il y ait quelque chose qui domine en nous en tant que chrétiens, ce sont les fruits de l'esprit. Et on y reviendra tout à l'heure. Si nous voulons véritablement faire la volonté de Dieu, rester dans l'esprit du sermon sur la montagne, être comme Jésus en quelque sorte, à la différence, c'est que lui, il était saint, avec un T. Et selon les expressions de notre langage, et je suppose que dans toutes les langues, c'est la même chose, nous avons des expressions particulières pour parler de la colère. Nous disons quelquefois, il sort de ses gonds. Vous avez vu cette porte ? Elle est montée sur des gonds. Ça s'ouvre violemment. On a souvent donné cette expression « monter sur nos grands chevaux ». Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire. Bon, en tous les cas, c'est quelque chose qui parle d'élévation. Hein. Ça commence à s'élever. On parle de gens qui sont soupaulés. Parce qu'il ne faut pas longtemps pour que... prendre la mouche. Hein. Autant d'expressions qui se passent d'explication, c'est-à-dire qui montrent bien que l'on est en colère. Alors, ce n'est pas seulement de le dire, ça se voit. Hein. Ça se voit parce que, bon, il y a quelquefois le visage s'empourpre, il y a des gestes menaçants, il y a des regards, il y a surtout des paroles, et parfois il y a des gestes. La colère. La colère des hommes, c'est peut-être justement une des subtilités, se dissimule souvent derrière bien des réactions que nous prenons bien soin, lorsque nous sommes en colère, de ne pas montrer au grand jour. Quelquefois, il y a des gens qui sont très très en colère, mais ils ne le montrent pas. Mais je peux vous dire qu'à l'intérieur, si nous pouvions voir un petit peu la tempête, la tourmente, le typhon qu'il y a à l'intérieur, on serait probablement surpris. Très souvent, dans nos états colériques, nous sommes soulagés d'en montrer les effets pour dire « Eh bien, c'est moi, et je m'affirme, et vous allez m'écouter, et vous allez faire comme je vous dis. » Donc, c'est un soulagement. Sans montrer véritablement, mais on est content d'en montrer les effets. Mais nous gardons bien de. Nous cachons bien les raisons profondes pour ne pas perdre la face. Vous savez, quelqu'un qui se met en colère, il va faire en sorte qu'il garde toujours la main. Hein, et il veut aller jusqu'au bout. Alors, c'est pas la peine de se mettre en colère si on ne va pas jusqu'au bout. Mais il veut. Il veut garder la face et justifier qu'il a toujours raison de se mettre en colère. Parce qu'il y a aussi cette démonstration de dire « Mais moi je suis juste, ce que je dis c'est juste, ce que je dis c'est vrai, et toi ce que tu penses, eh bien il doit y avoir quand même quelque chose qui ne va pas. » Donc c'est une affirmation véhémente de force, voire même de brutalité. D'ailleurs, je dirais, et ça c'est confirmé, mais que nos colères sont toujours justes et celles des autres sont toujours injustes. Ça dépend du quel côté on se met, naturellement. Le croit-on ? À la colère se mêle le ressentiment. Alors ça devient maintenant un petit peu plus compliqué. L'agressivité, nos frustrations que nous avons peut-être depuis pas mal de temps au fond de nous-mêmes. C'est pour ça que quand Jésus parle sur le sujet aussi grave, avec les conséquences que ça peut avoir, on s'aperçoit qu'il faut absolument qu'il y ait vraiment une transformation de nos cœurs. Jésus nous parle de nous changer intérieurement. Et parfois, nous traînons dans notre vieille nature, après peut-être même des années de conversion, des choses que nous avons du mal à gérer. On en a géré d'autres, mais celle-ci, ça devient, et c'est toujours un problème. Et parfois, ça peut rester jusqu'à la fin de notre vie. Et là, nous avons besoin de que les choses soient réglées une fois pour toutes. Et il y a des frustrations qui sont là, à la traîne. Il y a parfois des idées de revanche, quand on est humilié, de vengeance. C'est toujours un vecteur de mauvaise humeur. Hein. En principe, là, on sait que quand quelqu'un n'est pas content, il se met en colère, on sait qu'il n'est pas... Il y a parfois des rancœurs. Ça peut s'exprimer à travers le mépris de l'autre et de la malveillance calculée et avec effet retard. Parce que l'homme n'est pas toujours très bien disposé. En un mot, quelqu'un en colère, il vide son sac. Quelquefois, il a amassé ça pendant des heures ou un certain temps. Puis quand c'est parti, ça fait comme le volcan, vous savez, là, qui explose, qu'on n'arrive plus à arrêter. Hein, ça fait toutes sortes de choses. Donc on peut parler d'une colère brutale, explosive, violente. Mais il y a probablement des colères qui sont encore plus redoutables. Ce sont les colères silencieuses. Et vaut mieux encore avoir affaire à quelqu'un qui vous dit ces quatre vérités en face que d'avoir quelqu'un qui est en train de se consumer à l'intérieur et qui est en train de distiller quelque chose de profondément mauvais, cette colère silencieuse, cette colère froide, calculée, et quand elle sort, Oula, c'est terrible. C'est catastrophique. D'une façon ou d'une autre, la colère empêche, je l'ai dit tout à l'heure, la communication. Et il faut bien se le dire, c'est pas parce qu'on se met en colère que l'on va aller vers la solution. Il y a certainement d'autres méthodes, d'autres façons de faire. La colère n'est pas un moyen de trouver les solutions. Et il faut être formel sur cela. Qui pouvons-nous dire ? Qui sommes-nous pour dire, eh bien moi j'ai la raison, j'ai la justice, j'ai la vérité. Et même on s'est servi, et ça devient quelque chose de terrible, du nom de Dieu pour la cause. Pour appuyer finalement, eh bien que c'est nous, et puis c'est pas autrement. J'aimerais exposer devant vous quelques explications, quelques réflexions tirées de la Bible sur le sujet. La parole de Dieu nous exhorte à combattre certains aspects de ce comportement trop souvent préjudiciable. Dans Éphésiens, au chapitre 4 et au verset 31, je lis ceci. Il est dit que toute amertume, c'est déjà une préparation, toute animosité, toute colère, toute clameur, parce que ça s'exprime par la clameur, toute calomnie à travers des paroles, à travers la maldisance, on pourrait dire, si je me permets d'inventer ce mot, et toute espèce de méchanceté, l'apôtre Paul dira, disparaisse du milieu de vous. Paul insiste, faites disparaître du milieu de vous toute mauvaise humeur. Quelquefois, on n'est pas toujours bien disposé. C'est vrai, les journées ne sont pas toujours très faciles. Toute aigreur, toute rancœur et tout esprit de revendication. Vous savez, on est dans un monde de revendication. Hein. On le voit à l'extérieur de nous-mêmes, enfin à l'extérieur dans le monde, les gens revendiquent pour un oui, pour un non. Alors il y a peut-être des revendications qui sont justes. Mais toutes les occasions sont bonnes pour revendiquer. Quelquefois, on est un peu peiné de voir l'étroitesse d'esprit de, quelquefois, certaines personnes qui n'ont pas vu ce qui se passait ailleurs. Parce que peut-être en voyant ce qui se passe ailleurs, ils pourraient peut-être se conforter et se réconforter de dire on n'est pas si malheureux chez nous. On est quand même favorisé. Et un chrétien qui se plaint que ça ne va pas, qu'il y a ceci et cela, c'est qu'il n'a aucune notion, il n'a pas bien compris le sens du royaume de Dieu, de la grâce qui lui est donnée, de la faveur qui lui est accordée. Ça, c'est un état d'esprit. Alors, je crois que Paul a raison. Nous avons besoin de considérer la colère honnêtement comme une émotion compulsive, un bouillonnement de sentiments violents et parfois une sorte de passion, je dis bien passion qui dévore la vie. Je parle des caractères permanents. Et ce sont des gens qui ne sont pas heureux, mais permettez-moi de dire qu'ils ne rendent pas les autres heureux non plus. Nous avons une infinité d'exemples dans l'Ancien Testament, certainement dans le Nouveau Testament, où il est montré des caractères explosifs, des caractères colériques. Je pense au roi Saül, hein, le pauvre, hein. Pourtant il avait tout reçu. Il nous a même dit que Dieu lui avait donné un cœur nouveau, qu'il lui avait mis son esprit. Ben oui, mais c'était vrai que Dieu lui avait donné un cœur nouveau, que Dieu lui avait donné son esprit, mais il n'en avait rien fait. Parce que c'est ça la question, c'est que nous sommes tous pareils, nous sommes tous au bénéfice du salut, au bénéfice de la grâce de Dieu, au bénéfice de la parole de Dieu, de l'Esprit de Dieu qui travaille tous les jours, mais nous faisons ce que nous voulons, hein. Nous en prenons ou nous en laissons, malheureusement. Alors que l'enfant de Dieu est appelé à renoncer à la colère sous sa forme la plus naturelle, c'est-à-dire le désir de se venger, de lui dire, eh bien, je vais lui montrer de quel bois je me chauffe. Vous connaissez l'expression, hein ? Voilà, il m'a fait ceci, il m'a fait cela, ou quelquefois, c'est prétendument en croyant qu'il m'a fait ceci alors que les intentions de l'autre n'étaient pas là. Alors c'est doublement faux, hein ? Parce qu'il faut aussi quelquefois vérifier nos paroles, nos réactions et nos actions. Il faut quelquefois savoir où ce que l'on fait. Et si on part, comme on dit au quart de tour, sur des impressions, je dis bien des impressions, eh bien, on peut se tromper plus d'une fois. il y a des impressions qui ne trompent pas, mais il y a beaucoup d'impressions dans notre humanité qui peuvent nous tromper, à travers des regards, à travers toutes sortes de choses, alors que les gens sont complètement, parfois à 10 000, se disent « mais je ne comprends pas qu'ils m'en veuillent, parce que vraiment ce n'est pas mon cœur, ce n'est pas mon intention ». Alors là, à ce moment-là, il y a des supputations, et on commence à rentrer dans toutes sortes, dans un monde qui suspecte, et c'est quelque chose de terrible. Dans Colossiens, au chapitre 3 et au verset 8, il est dit ceci, « Mais maintenant, c'est Paul qui continue, il dit, mais maintenant, renoncez à toutes ces choses. » Il est question de renoncer, de faire le point et de dire, « Eh bien maintenant, je choisis. Seigneur, je suis comme ça. » Parce qu'on voit souvent la poutre dans l'œil de l'autre. Non. Oh, mais je m'y suis jamais mis. Hein. Franchement, je n'ai jamais fait la différence entre une poutre et une paille. Alors, souvent on voit la paille dans l'œil du voisin, mais on ne voit pas la poutre. Évidemment, si on a une poutre, on a du mal à voir. Hein. Ça, c'est clair. C'est logique. Hein. Et parfois, devant nos problèmes qui nous sont propres, on n'est pas les mêmes problèmes les uns et les autres. Hein. Mais ça, c'est un problème caractériel. Alors, à ce moment-là, on a vraiment besoin de dire, « Mais Seigneur, écoute, je prends conscience que, quelquefois, je ne suis pas toujours marrant. Hein. Je ne suis pas toujours drôle avec mes emportements, avec mes ébullitions, enfin, toutes sortes de choses. » Et il nous est dit « renoncer ». Donc il faut se placer devant le Seigneur en disant « Seigneur, tu vois mon problème ? » Eh bien, c'est que quand je suis contrarié, quand j'ai ceci et cela, eh bien, je te demande de m'aider. Si vous ne le demandez pas, le Seigneur ne va rien faire. Hein. Et quelquefois, il faut en souffrir nous-mêmes. Il faut en être malheureux, de dire « Mais Seigneur, c'est vrai que je ne peux pas rester comme ça. Hein, » On me l'a dit, j'ai du mal à le croire. Parce que je pense que c'est difficile d'entendre les autres. Hein. Mais je crois que à ce moment-là, eh bien, il faut vraiment que tu m'aides, il faut que tu me changes. Et vous savez, quand on demande au Seigneur de nous changer, ça peut demander du temps, mais il va nous changer. Il permettra les circonstances et les situations pour que nous puissions être transformés dans notre tempérament, dans notre vie intérieure. Et quand même, parfois, eh bien, il y a un travail de changement, il y en aura toujours un qui viendra vous susurrer pour reprendre le travail, vous voler ce que le Seigneur a fait en vous. Jusqu'au bout, hein, parce qu'il y a des tempéraments qui sont comme ça. Et voilà, il faudra toujours être vigilant de ne pas se faire rafler au passage, dans des pièges qu'il tendra de temps en temps. Et puis si vous tombez dans le piège, eh bien le diable ricanera en disant « Regarde, tu me parles de délivrance, regarde un peu comment tu es, regarde, tu pars au quart de tour. » Voilà, donc, tout ça c'est du... ta foi et tout le reste c'est du bluff. Attention. Renoncer à toutes ces choses, entre autres à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles équivoques, qui pourraient sortir de votre bouche. Et c'est vrai que quand on est en colère, quelquefois, il faudrait tourner sa langue plusieurs fois dans sa bouche, hein, parce que ça sort. Et là, on ne réfléchit pas toujours à ce que l'on dit. Et on dit quelquefois beaucoup plus que ce que nous pensons. Et on peut dire des choses qui peuvent tuer. Parce que quand il est question de la colère, il n'est pas seulement de prendre un pistolet ou un couteau, je ne sais quelle arme contendante, mais ça peut être aussi la langue. Et la langue, elle tue aussi sûrement que tout le reste. C'est terrible. Il y a une autre traduction qui nous dit ceci. À présent, rejetez tout cela derrière vous. Plus de colère, ni d'irritation, plus de méchanceté, ni de médisance, plus de vilains propos ou paroles inconvenantes souillant vos lèvres. C'est une traduction de français moderne. L'Écriture nous enseigne à ne pas provoquer les autres à la colère. Il y en a qui trouvent un malin plaisir de mettre les autres en rogne. Il les provoque. Voilà. C'est pas gentil, hein. C'est même pas bien du tout. Vous savez, il y a des gens qui ont l'esprit provocateur. Et ils font tout jusqu'à ce qu'il puisse arriver à mettre les autres en boule. Moi, je trouve des mots à chaque fois. Boule, pourquoi ? Ça ressemble au hérisson, peut-être, non ? Enfin, ça ressemble à beaucoup de choses. Donc, l'Écriture nous dit attention à ça. C'est mal faire. Parce que c'est véritablement entraîner l'autre à pécher. Et s'il y a une chose dont nous devons nous garder, c'est de pécher nous-mêmes. Mais aussi grave, c'est de faire pécher les autres. Parce qu'à ce moment-là, ils vont pécher, mais nous sommes coupables de leur péché. Il faut faire attention. Hein. La famille est souvent le théâtre de comportements colériques et capricieux. ça se voit déjà chez les petits. Voilà. Hein, ils sont, quelquefois, ils savent bien tirer les ficelles. Et en tous les cas, la parole de Dieu, nous l'avons rappelé il y a à peu près 15 jours, 3 semaines, dans un message, invitation par priorité est adressée d'abord aux adultes responsables, de ne pas provoquer. Il faut être sage. Dans Colossiens, au chapitre 3 et au verset 21, il est dit à ceux qui ont l'autorité de la famille, aux yeux de Dieu, il est dit « Père, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. » C'est Paul qui l'écrit. Alors il faut faire attention de ne pas provoquer des choses d'une manière ou d'une autre. « Père, n'irritez pas, c'est-à-dire n'exaspérez pas vos enfants par une sévérité excessive. » Oui. « Évitez de leur faire perdre courage, où ils vont se mettre à faire n'importe quoi. » Il faut un équilibre. Et c'est toujours le maître mot. Et l'exemple vient des plus âgés, de ceux qui sont en responsabilité, donc les parents. Nous sommes par ailleurs recommandés à être lents à la colère, comme Dieu l'est lui-même. Ça, vous connaissez le verset, hein, il est très souvent cité dans la Bible. Donc, nous sommes recommandés à être lents à la colère, c'est-à-dire capables de maîtriser nos mouvements d'humeur, voire d'irritation, et nous sommes mis en garde contre la fréquentation de ceux et de celles qui sont enclins à s'irriter et à s'emporter facilement. Je cite Proverbe 15, verset 18. « Un homme violent excite des querelles, mais celui qui est lent à la colère apaise des disputes. » Alors comment faire? C'est pas toujours facile. Mais je crois que nous avons aussi à faire le choix aussi des gens de nos fréquentations. Il y a des gens qui aiment les histoires. Oh, c'est vrai, hein? Et je dirais ce que Paul dit, que chacun s'occupe de ses propres affaires. Et c'est vrai que vous avez des gens qui ont la démangeaison permanente de s'occuper de ce qui se passe chez le voisin. C'est pas vrai? Et, excusez-moi, vous me ferez après ce que vous voudrez vous mettre en colère contre moi. Mais je dirais que quelquefois, un des problèmes dans nos églises, c'est de s'occuper indûment de la vie de nos frères et de nos sœurs. Écoutez, soyons charitables. De toujours gratter, de savoir si l'autre y marche droit, s'il fait ceci, s'il fait cela, etc., etc. Vous savez que ce genre de comportement a tué des pasteurs par dizaines. J'espère que je vais survivre. Moi, je le dis avec le sourire. Non, mais c'est vrai. Écoutez, on a autre chose, franchement, à faire. Croyez pas que Dieu nous a dit « Allez partout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Que de se crêper le chignon, que de médire, que de fouiller, de chercher, de téléphoner, parce que depuis qu'il y a le téléphone, c'est une catastrophe. Qu'est-ce qu'il a fait? Et ceci, j'ai entendu cela. Je peux vous dire que ça ne crée pas un climat de paix dans une église. Surtout quand les choses passent par le téléphone arabe, que quand vous avez une information qui vous arrive, bon, elle peut être à peu près vraie ou juste au départ, et quand elle arrive au bout, fou, c'est terrible. Non, mais que chacun s'occupe de ses propres affaires. Et vous savez, une chose qu'il faudrait, et ça c'est une question de sagesse, on en a parlé dernièrement, au lieu de s'occuper des affaires des autres, quand nous savons quelque chose, et des choses qui quelquefois peuvent nous contrarier, elles sont peut-être même parfois choquantes, on est tombé sur des affaires scandaleuses, mais au lieu de le colporter aux uns et aux autres, de colporter le péché, qui va mettre des colères, hein, qui va déclencher des ouragans, des tornades, des toutes sortes de choses épouvantables, on ferait mieux d'en parler au Seigneur au lieu de s'en parler les uns les autres. Croyez pas? Parce que lui, il est de bons conseils, le Seigneur. Puis il y a une chose qu'il va nous dire. Prie. Voilà. Mais nous pensons être au-dessus du Seigneur et pouvoir régler les problèmes nous-mêmes. Je ne sais quelle inspiration nous vient, mais nous disons, c'est comme ça, c'est ceci et cela. Et on va déclencher des divisions. Il faut être sage, mes frères et sœurs. Parce que quelquefois, nous connaissons ces textes sur la colère, mais parfois on a mis les mains dans des choses où Dieu nous disait « Mais retire-toi, retire-toi ». On a appris des leçons aussi, hein. Et c'est bien de les avoir appris, parce que quelquefois on peut les écouter sans les apprendre. Oui. Si l'esprit de celui qui s'élève contre toi reste à ta place, car le calme prévient de grands péchés. Dixit, le livre de l'Ecclésiaste, chapitre 10, si je me souviens bien, verset 7. Ouais. Si l'esprit de celui qui s'irrite s'élève contre toi, bien tu restes calme. Parce qu'on est responsable, quelquefois, des colères que l'on peut déclencher de droite et de gauche. Ça sera des colères ouvertes, ça sera un affrontement, oui, ça sera frontal, ou alors ça peut être des colères silencieuses qui vont être là emmagasinées et qui vont traîner sur des mois, des années, jusqu'au jour où. Et on va être envenimé, on va être empoisonné. Il faut faire attention à ça. Un homme furieux excite les colères, mais celui qui est lent à la colère apaise les disputes. Vous savez qu'on a un beau titre que nous avons médité l'autre jour dans le Sermon sur la montagne, que nous sommes appelés fils de Dieu si nous procurons la paix. Hein ? Ouais, procurons la paix, appelés fils de Dieu, parce que Dieu est un Dieu de paix. Proverbe 22, versets 24-25. Ne fréquente pas l'homme colérique. Ne va pas avec l'homme violent, de peur que tu ne t'habitues à ses sentiers, que tu ne te familiarises avec son état d'esprit, et que tu en sois toi-même contaminé, que tu en sois infecté, et que tu arrives finalement à transporter, à colporter cette colère et cet état d'esprit de dispute, et que tu y trouves un piège pour ta vie. Les mauvaises compagnies, nous dit la Bible, corrompent les bonnes mœurs. Vous savez, on a constaté que quelquefois, quand il y a un esprit de paix dans une famille, ou même peut-être entre amis, eh bien, ça favorise. Mais il suffit qu'il y ait quelqu'un qui vienne avec un esprit de dispute, eh bien, moi, je dis que ce n'est pas l'esprit de paix qui va avoir la gagne dessus, c'est l'esprit de dispute à un moment donné qui va se répandre sur tout le monde, et tout le monde se fâche. Vous connaissez les repas de famille ? Non ? Vous ne connaissez pas ? Il y a un élément qui vient. Tout le monde est bien tranquille, et à un moment donné, il y a deux ou trois petites perles qui arrivent, et pssing, c'est fini. Hein. Je peux vous dire que le dessert, pssing, vous arrivez au dessert, vous n'en voulez plus. Hein. Rassasié. Et ça se termine par des fâcheries, quelquefois, qui vont très très loin. Attention. Nous, les chrétiens, nous devons être sages et intelligents. Et faisons attention, parce que la parole nous le dit quand même. Hein. Une autre version nous dit, j'aime bien moi la comparaison de versions parce que ça amplifie finalement la compréhension. Ne fréquente pas quelqu'un de coléreux, colérique. Ne va pas avec un homme furieux, de peur que tu ne t'habitues à ses sentiers et que tu n'y trouves un piège pour ta vie, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, encore une fois de plus. Eh oui. Vous savez, c'est très facile à exciter des gens. C'est très facile à exciter des foules, même des peuples. On a ces sinistres souvenirs de ce qui s'est passé dans ces années sombres, les années 40. Des discours enflammés, des discours colériques, des discours vengeurs, des discours... Et tout un peuple suit. Un monde sans dessus-dessous. Un monde de sang et de feu. Nous sommes des hommes de paix. Et nous devons procurer la paix. Alors il y a deux sortes de colère à envisager. Dans Éphésiens chapitre 4 et verset 26, il est dit ceci, « Si vous vous mettez en colère, ne péchez point que le soleil ne se couche pas sur votre colère. » Alors peut-être vous allez me dire, mais comment comprendre ce texte ?« Si vous vous emportez, ne commettez pas de péché, nous dit l'apôtre. Ne laissez pas le champ libre à la colère et que votre ressentiment... Ça pèse avant la nuit. Alors si vous mettez en colère à 9h moins le quart, il faut faire vite. Hein. Si c'est le matin à 7h, ça va encore, vous avez toute la journée. Oui. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas et que le soleil ne se couche pas sur votre colère. La première proposition d'explication, ça veut dire, si vous vous emportez, ne commettez pas. À la vérité, nous sommes poussés à prendre position, donc devant des faits qui nous irritent, qui nous provoquent, et nous manifestons de la colère. mais seulement contre le véritable ennemi, les mauvaises choses, le péché. La colère est un sentiment qui nous rend capable d'émotions fortes, très très fortes. Cependant, l'expression « ne commettez pas de péché », même devant le témoignage du péché lui-même. Eh bien, quand l'apôtre écrit « ne commettez pas de péché », il fixe la limite de notre irritation. J'ai été en colère devant le péché, mais si je ne sais pas m'arrêter, je vais aussi pécher devant ça. Et là où je juge, je vais devenir aussi condamnable. Peut-être avec un esprit de redresseur de tort ou de propre justice. C'est comme ça que Jésus leur a dit, écoutez, que celui qui est sans péché prenne la première pierre, puis qu'il la jette. Parce qu'ils étaient irrités, quand même, les pharisiens. Irrités contre une pauvre femme qu'ils ne connaissaient à cause de sa réputation. Et Jésus a mis tout le monde d'accord avec cette histoire. Et il nous a dit que du plus petit jusqu'au plus grand, tout le monde a disparu. Ils avaient compris la leçon. Dieu approuve la colère dirigée contre le péché dans la mesure où elle reste sous notre contrôle. Un chrétien n'est pas un Jéhu. Vous connaissez l'histoire de Jéhu, du roi d'Israël, Jéhu ? Son zèle, l'épée de l'Éternel. Ah bah oui, bah c'était très bien, c'était le Robespierre de l'époque. Ah bah il voulait tellement que ça soit propre, que ça soit net, que ça soit pur, qu'il a coupé la tête à tout le monde. Et puis lui, il y est passé à la fin. C'est terrible ça. Ça, ce sont les excès. Ce sont les extrêmes. Et il faut faire attention à ça. Deuxième proposition. Il nous est dit, ne laissez pas le champ libre. Que votre colère s'apaise avant le coucher du soleil. Alors vous avez de la chance quand c'est un jour du mois de novembre. Quand il n'y a pas trop de soleil. Que votre colère s'apaise avant. Autre type de colère, d'irritation, d'exaspération, d'amertume dirigée contre quelqu'un. Ici, nous devons combattre ce comportement de ressentiment coupable. Dans ce cas, nous devons nous empoigner et de dire il y a des limites. Attention, il faut que je sache m'arrêter. Il ne faut pas que j'aille trop loin. Pour ne pas laisser le soleil, entre guillemets, c'est symbolique. En d'autres termes, ne pas laisser le temps passant, le temps durcir la situation, même nous coucher avec notre colère, avec de la rancœur, de la haine, du ressentiment, de l'amertume en nous, au risque de ne pas trouver le sommeil, même de perdre notre propre équilibre. Et ça, c'est le revers de la médaille, c'est que notre colère, elle se retourne contre nous à un moment donné, et elle nous détruit. Parce que elle couve, elle enfante, elle est porteuse en son sein de ce qui est le plus terrible, la rancœur, l'amertume, l'aigreur et la haine. Alors comment faire et comment réagir efficacement? Il y a toutes sortes de petites choses que j'aimerais mettre devant vous rapidement. Que veut dire réprimer la colère? Sinon peut-être étouffer l'irritation qui équivaut à ériger une barrière autour d'elle. Nous sommes conscients que nous pouvons faire mal. Alors nous nous efforçons de dominer notre émotion. Exemple, Proverbe 29, 11. L'insensé met en dehors toute sa passion, mais le sage la contient. Et c'est là que nous avons besoin d'un des fruits du Saint-Esprit, c'est la maîtrise de soi. Et ça, on a tous besoin d'être maître de nous-mêmes. Et ce n'est pas quelque chose de naturel, mais c'est un fruit surnaturel. Ce n'est pas dans ma nature, ce n'est pas dans mon caractère, mais Dieu est capable de le mettre surnaturellement en moi. Ça fait partie des fruits de la personne de Christ par le Saint-Esprit en moi. L'insensé étale tous ses sentiments, mais le sage se retient de montrer les siens. Proverbe 14, 29. Celui qui est lent à la colère, je reviens, a une grande intelligence, mais celui qui est prompt à s'emporter proclame sa folie. Parce que là, il va vouloir remuer ciel et terre et remuer toute la poussière qui est autour de lui. Mais il ne va faire que la démonstration qu'il est fou. Il est insensé de se comporter comme ça. Parce que le fruit, c'est toujours le calme. C'est d'être de ceux qui procurent la paix autour d'eux. Celui qui est lent à la colère a une grande intelligence, nous l'avons lu. Mais celui qui est prompt à s'emporter proclame donc sa stupidité. Et quand il est dit à un moment donné, dans notre texte, quand il est parlé d'insensé raca, on l'a vu la dernière fois, ça veut montrer qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce qu'il faut savoir se maîtriser. Il est bon de répondre et d'agir seulement que lorsque nous avons retrouvé notre calme. Et quelquefois, il faut régler les problèmes, non pas quand on est dans le feu de la colère, mais d'attendre qu'elle passe un petit peu, et puis après, on... D'ailleurs, c'est comme ça souvent que ça se passe. On se calme, quand on arrive à se calmer, c'est pas toujours les autres qui arrivent à nous calmer. Hein. Mais on prend un peu de recul, et une fois que le climat relationnel est redevenu paisible, alors dans ces conditions, on peut évoquer le sujet qui fâche. Mais pas en repartant de plus belle, hein, parce que quelquefois, ça se rallume tellement vite, hein. Le bois est tellement sec que ça repart. On peut parler des causes, expliquer et ainsi désamorcer la bombe. Puis quelquefois avec un peu de bonne volonté, un peu de bon sens, on se dit bon voilà, hein, voilà on parle. Parce que c'est en parlant hein, qu'on solutionne. Mais c'est aussi en savoir écouter l'autre. Hein. Savoir écouter l'autre. Toujours désamorcer au risque de voir ressurgir le conflit à tout moment. Parce que si on n'en parle pas, et le problème de la colère... qui impose aux autres, c'est que les autres vont se taire. Il va y avoir une rupture de relation. Il n'y aura pas de solution, mais à un moment ou un autre, surtout si ce sont des chrétiens et qui prient parce qu'ils ont souffert, je peux vous dire que Dieu est capable de retourner les situations et ce sera l'inverse qui va se passer à ce moment-là. Il ne faut pas que ce soit des règlements de compte et des vengeances. C'est ça ce qui est mauvais. Parce que derrière, il y a l'histoire des hommes, mais il y a aussi surtout la patte du diable. Et lui... il est distributeur de feu, parce qu'il ne sait faire que ça. Et plus il y aura des conflits, plus il y aura de disputes et de querelles, mais il se frotte les mains parce que c'est son but. Et on tombe souvent bêtement dans ce genre de choses. Devons-nous donner libre cours à la colère ? La colère peut être un sentiment de grande violence et qui néanmoins a besoin d'une échappatoire. Quand il y a trop de pression, c'est ce qu'on peut appeler une soupape d'échappement, l'explosion sans retenue aboutit à des résultats peu positifs. Et quelquefois, il ne reste plus rien du tout. Hein. Ça peut aboutir à des divorces dans les couples. Ça peut aboutir à des séparations inéluctables entre les parents et les enfants. Ça peut aboutir parfois à des divisions, mais alors incroyables dans les églises. Et toutes sortes de choses irréconciliables à un moment donné, parce qu'on était trop loin. On était trop loin dans notre comportement, on était trop loin dans notre façon de faire, on était trop loin surtout dans nos paroles. Tellement excessif. Et il y a des gens qui ne peuvent pas finalement revenir. Et c'est là où intervient la question du pardon. Elle n'est pas en cause ce soir, puisque ce n'est pas notre sujet. Mais après, c'est la question du pardon. Et vous savez, les gens qui ont été blessés, les gens qui ont été écrasés, les gens qui ont été laminés, coupés en petits morceaux, après, il faut qu'ils se reconstruisent. On leur dit, mais tu pardonnes, oui. C'est bien, bien sûr. Mais là, il faut l'aide de Dieu. Parce que quelquefois, ça a été tellement loin. C'est terrible. Après un accès de colère libéré, souvent nous nous sentons mieux. Oh, je lui ai réglé son compte. Hein. Je suis content. Oui, vous êtes peut-être vous, mais celui qui est en face. Surtout si c'est injuste. Surtout si nous prétendons que nous, nous sommes justes. Alors toutefois, nous avons le devoir d'être intelligents de la manière dont nous parvenons à extérioriser, puisqu'il est question d'extérioriser. C'est vrai, il faut que ça sorte. C'est vrai. Mais en se donnant les moyens de ne porter atteinte à personne. On discute des causes, on discute des conditions, on discute des situations, d'accord, mais quand on touche aux personnes, c'est autre chose. On touche à la personnalité de quelqu'un, et on va l'humilier, on va lui faire du mal. C'est vrai qu'on peut toujours discuter sur des situations, voilà, les conditions, ceci et cela, on n'est pas toujours d'accord sur certaines choses. Mais quand ça touche aux personnes, il faut faire attention. On ne touche ni aux personnes, ni on ne touche pas assez bien non plus, sans laisser après nos explosions un champ de ruines incendié. Alors que le Seigneur nous aide, moi je vais m'arrêter là parce qu'on reviendra encore, j'ai pas fini mon étude, mais c'est important mes frères et sœurs. Je crois que quand Jésus nous dit cette parole, « Moi je vous dis que quiconque se met en colère contre », nous avons vraiment besoin d'entendre ce que Dieu nous demande. Parce que on est comme on est. Le Seigneur nous connaît. Hein. Et il nous a fait la grâce de nous appeler au salut. Et il nous a appelés comme nous sommes. Et il sait très bien les défauts, les travers qui sont les nôtres. Mais s'il nous parle comme ça, c'est qu'il nous dit maintenant, je te demande de venir à moi. Surtout si tu es fatigué et chargé, de ton caractère et de ton tempérament, moi je suis capable, finalement, eh bien, de changer les choses. Il n'y a que lui. Et vous savez, souvent, les leçons, les évolutions dans notre vie, elles passent par des crises personnelles. Elles passent par des choses qui nous échappent, que nous croyons maîtriser. Elles passent par des épreuves, elles peuvent passer par des maladies, elles peuvent passer par toutes sortes de circonstances, par parfois, eh bien, une perte de situation. Et là, on se retrouve comme ça, on est démuni, on est démuni. On n'a plus de moyens. Et Dieu, quelquefois, nous retire ses moyens pour que nous puissions réfléchir et que nous puissions finalement dire, eh bien voilà, Seigneur. Et on apprend des leçons comme ça. On les apprend par l'expérience. Ce soir, on a fait un peu de théorie. Mais moi, je crois que dans l'Église, le Seigneur, dans nos couples aussi, dans nos familles, moi, je suis convaincu que le Seigneur va nous traiter comme un bon père et changer nos tempéraments et nos caractères. Ça, il va le faire. Il ne veut pas que les disputes qu'il y a sur la terre, elles se retrouvent dans le ciel. Et non, mais ça, c'est sûr. C'est ça, la sanctification. Ce n'est pas l'exclusion de tout autour de nous. Ça commence par l'intérieur. Ouais, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Mais le Seigneur va s'occuper de nous. On a tous des points faibles. On a tous des difficultés, d'une manière ou d'une autre. Ce soir, on parle de la colère, mais on pourrait parler d'autre chose. Il y en a qui, même des chrétiens, qui ont tendance à mentir. Oh, ça nous paraît impossible. Ben oui. Parce que ce sont des vieilles habitudes, parce que ce sont parfois des choses que nous avons comme ça, c'est tout, c'est en nous. Et moi, on a vu des chrétiens, ils mentaient. Ils mentaient, non pas pour le plaisir de mentir, mais ils mentaient par peur. Alors, pour s'échapper de quelque chose, d'une situation, alors, ils mentaient. Jusqu'au jour où Dieu leur a dit, tiens, et voilà, j'ai quelque chose à te dire, maintenant je voudrais te montrer un petit peu les choses. Il faut que tu arrêtes de mentir. Il faut que tu arrêtes de biaiser, il faut que tu arrêtes de tromper. Faut que tu arrêtes de jouer un petit peu avec les autres, hein, parce que ça commence à bien faire, parce que si toi tu t'en aperçois pas, les autres s'en aperçoivent et ils me le demandent, et ils prient. Parce que c'est ça le but de l'Église. Hein. Vous savez, moi c'est ma pensée profonde. Un chrétien, il n'a au grand jamais, il ne doit demander le mal pour personne. Au grand jamais. Ce matin, j'avais une personne qui me téléphonait de la région parisienne et qui me disait, parce que bon, j'ai marché de travers et puis ma famille m'a dit qu'elle me maudissait. Bon, je lui ai dit, vous ne tracassez pas, hein, ça ne va pas aller loin. Hein. Vous ne tracassez pas, vous n'avez pas tremblé. Parce qu'elle m'a dit, mais moi je crois dans le Seigneur, et etc. Bon, c'est tout un contexte. Mais une chose que nous avons besoin de demander, c'est que ceux qui font du mal, ils arrêtent de faire du mal en tous les cas. Il y a des gens qui ne savent pas, ils font du mal, mais sans savoir qu'ils font du mal. Et entre autres, la colère peut être un vecteur. Il y a le mensonge peut être un vecteur. Toutes sortes d'habitudes de biaiserie, de louvoiement, toutes sortes de choses, dont les gens ne sont pas forcément responsables. Alors à ce moment-là, ils font du mal aux autres. Et je me dis, mais Seigneur, on n'est pas là pour te prier pour que tu leur fasses du mal, pas du tout. On est là pour qu'ils arrêtent de faire du mal, et toi tu as les moyens, c'est pas nous, hein. Et souvent, on voit, au bout d'un certain temps, pop, les choses repartent dans le bon sens. Et ils prennent conscience. C'est là où les gens grandissent, quelque part. Et ça, c'est l'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Quand il est dit de ne pas s'occuper des affaires des uns des autres, en tous les cas, il y a une chose qui est certaine, c'est que dans l'Église, nous sommes tous le gardien de notre frère et de notre sœur, mais via la prière. Et pas de dire, Seigneur, tu lui fais descendre, vous savez, comme la fameuse prière de Jean, des Samaritains. Tu le fais descendre le feu du ciel sur la tête et il va comprendre combien ça brûle. C'est pas comme ça que ça marche. On n'a pas à demander le mal. Parce que si vous faites ça, c'est vous qui allez avoir quelque chose de... Ah oui, il ne faut pas demander le mal, il faut demander le bien. Bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous maltraitent, etc. etc. Mais par contre, nous pouvons dire une situation répréhensible sans qu'on y mette la main. Seigneur, je te prie parce que toi, tu connais. Tu connais mon frère, tu connais ma sœur, tu sais pourquoi il est comme ça, comment elle réagit, ou comment il réagit. Tu connais ce qu'il était avant sa conversion, tu connais peut-être son éducation, c'est peut-être pas tout à fait de sa faute aussi. Eh oui, faut être compatissant et il faut avoir des idées un peu plus éloignées que ce que nous voyons dans l'immédiat. Et le Seigneur saura traiter. Il saura traiter les choses. Et il saura bien faire. Et c'est un sujet de joie lorsque nous voyons quelquefois des gens qui ont été parfois difficiles. Et de les voir sans qu'ils s'en aperçoivent eux-mêmes. C'est ça ce qui est formidable. C'est les autres qui s'en aperçoivent en disant « Il s'est apaisé, il est plus doux, il ne se met plus en colère, il ne biaise plus. » On voit, il y a vraiment une transformation de sa vie. Mais merci Seigneur, parce que c'est le but. Alors, que Dieu nous bénisse ce soir. Que Dieu nous donne sa grâce, parce que c'est l'œuvre de Dieu de toute manière. Mais ce qui est formidable, c'est que Dieu nous a donné sa parole. Il nous a donné aussi l'aide du Saint-Esprit pour que nous changions et que nous soyons à son image. Que Dieu nous bénisse. Nous allons prier quelques instants. Et puis, début juillet, on terminera tout simplement avec quelques aspects encore pour clore cette série sur le sermon sur la montagne.